Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La France avant la France 481-888 version compacte est un ouvrage d'histoire médiévale rédigé par Geneviève Burer-Thierry et Charles Mériot, publié chez Bellin dans la collection Histoire de France. Il propose une synthèse sur les transformations du monde franc entre la fin de l'Empire romain et l'émergence d'un royaume de France, encore très éloigné de ses contours ultérieurs. Le livre couvre à la fois la période mérovingienne et la montée en puissance carolingienne, en insistant sur les continuités, les recompositions politiques et les réalités sociales d'un espace franc très divers. Son objectif est de corriger les images simplificatrices longtemps attachées à cette époque, qu'il s'agisse de la prétendue faiblesse absolue des mérovingiens ou de la grandeur sans nuance des carolingiens. Grâce à une lecture renouvelée des sources et aux apports de l'archéologie, l'ouvrage replace ces siècles dans leur complexité historique. Je vais vous présenter les points clés, ce livre. Premièrement, une révision critique des images traditionnelles sur mérovingiens et carolingiens. Le livre se distingue d'abord par sa volonté de démonter les oppositions trop commodes qui ont longtemps structuré le récit scolaire et historique. Les mérovingiens y sont souvent présentés comme des souverains violents, incultes et impuissants, à l'exception de Clovis, tandis que les carolingiens apparaissent comme des bâtisseurs d'ordre, de foi et des expansions. Les auteurs montrent que cette lecture est réductrice, car elle projette sur le haut Moyen-Âge des catégories morales et politiques trop nettes. En reconsidérant les sources écrites et les données archéologiques, il restitue des pouvoirs plus fragmentés, des royautés plus dépendantes des élites locales et des dynasties moins homogènes, qu'on ne le dit souvent. L'intérêt de cette approche est méthodologique, autant qu'historique, elle apprend au lecteur à distinguer la légende historiographique de la réalité des pratiques politiques, ce qui change profondément la compréhension de la naissance de la France. Deuxièmement, le royaume franc comme mosaïque de communautés régionales. L'ouvrage insiste sur un point essentiel, la Francie n'est pas un bloc uniforme, mais un ensemble de communautés, de territoires et de traditions régionales très variées. Cette idée est importante, car elle remet en cause l'image d'un royaume franc déjà centralisé et orienté vers une unité nationale précoce. Les partages d'héritage, les recompositions dynastiques et les équilibres locaux ont produit une géographie politique mouvante, où Neustrie, Austrasie, Bourgogne ou Aquitaine ne se confondent ni par leurs pratiques, ni par leur rapport au pouvoir. Les auteurs montrent ainsi que le pouvoir royal dépend de négociations permanentes avec des aristocraties régionales, ce qui limite l'autonomie réelle du centre. Cette lecture permet de comprendre que l'unité franque est d'abord une construction fragile, faite d'alliances, de fidélité et de compromis. Le lecteur y gagne une vision plus fine des mécanismes de domination et de cohésion dans l'Occident post-romain. Troisièmement, la fragilité concrète du pouvoir carolingien malgré son prestige, le livre ne nie pas la puissance symbolique et territoriale des carolingiens, mais il en souligne les limites réelles. L'empire de Charlemagne peut donner l'impression d'une domination totale sur l'Europe occidentale. Pourtant, cette construction repose sur des bases plus étroites et plus vulnérables qu'une image de conquête triomphale ne le laisserait croire. Les auteurs rappellent que le pouvoir central carolingien n'agit jamais seul, il doit composer avec les aristocraties, s'appuyer sur des relais locaux et maintenir des équilibres délicats à l'échelle des royaumes. Cette fragilité n'annule pas la nouveauté carolingienne, mais elle en redéfinit le sens. L'Empire ne est pas seulement un sommet de puissance, c'est aussi une tentative de stabilisation politique dans un monde où les moyens administratifs sont limités. Cette perspective aide à mieux saisir pourquoi l'apogée carolingienne a pu être spectaculaire tout en restant exposée aux divisions et au déclin. Quatrièmement, lire le Haut Moyen-Âge à partir des sources et de l'archéologie. Un apport majeur du livre est de montrer comment l'histoire du Haut Moyen-Âge se renouvelle lorsque l'on accepte de relire les sources avec prudence et de les confronter aux découvertes archéologiques. Les auteurs ne se contentent pas de reprendre les récits dynastiques ou les chroniques tardives. Ils s'interrogent sur ce que ces documents permettent réellement de savoir. Cette démarche est décisive car la période 481-888 souffre d'un fort déséquilibre documentaire, souvent compensé par des récits très interprétatifs. En mobilisant l'archéologie, l'ouvrage éclaire autrement les structures d'habitat, les hiérarchies sociales, les formes de christianisation et les cadres de la vie aristocratique. Le résultat n'est pas une accumulation de détails techniques, mais une histoire plus concrète, moins légendaire et plus attentive aux conditions matérielles du pouvoir. Pour le lecteur, cette méthode montre que l'histoire médiévale n'est pas seulement affaire de rois et de batailles, mais aussi d'indices, de contextes et de limites de la documentation. En dernier lieu, une synthèse de référence sur la transition du monde franc au royaume de France. La force du livre tient aussi à sa place de synthèse dans une grande collection d'histoire de France. Il suit la longue transition qui mène des royaumes francs issue de là après Rome à un espace politique plus resserré, progressivement identifiable comme Royaume de France. Cette progression n'est pas présentée comme une naissance simple et linéaire, mais comme un enchaînement de recompositions, de déclins dynastiques, de transferts de légitimité et de mutations territoriales. Le mérite de l'ouvrage est de rendre lisible une période complexe sans la simplifier à l'excès. Il convient donc à la fois aux lecteurs qui cherchent un panorama solide et à ceux qui veulent comprendre comment se forme une continuité historique entre monde franc, empire carolingien et royaume capétien futur. Sa valeur tient à l'équilibre entre exigence scientifique et clarté d'exposition, ce qui en fait une référence utile pour situer les débuts de l'histoire médiévale française. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs intéressés par le Haut Moyen-Âge, l'histoire de France, l'histoire des royaumes francs et la formation progressive des pouvoirs politiques en Europe occidentale. Il conviendra aussi aux étudiants, aux enseignants et aux lecteurs curieux qui souhaitent dépasser les clichés sur les Mérovingiens et les Carolingiens. Son intérêt pratique est de fournir une synthèse structurée, fiable et intelligible sur une période souvent difficile d'accès. Son intérêt intellectuel est plus large, il invite à penser la construction du pouvoir, les rapports entre centre et périphérie, ainsi que la lente transformation d'un monde post-romain en un espace politique nouveau. Ce qui distingue particulièrement cet ouvrage d'autres livres du même genre, c'est sa capacité à conjuguer une forte exigence critique avec une présentation claire et continue. Il ne cherche pas seulement à raconter une suite de règnes, mais à expliquer comment les sources, l'archéologie et l'historiographie modifient notre compréhension de cette période fondatrice. Si vous souhaitez soutenir Charles Mériot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.